Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Je m'appelle Patrick, je suis paysan-cueilleur, producteur d'osier et un petit peu vannier. Et je vis et mon activité sur la commune de Plounay-Ormenez, dans les Monts d'Arrée. Je suis installé comme producteur de plantes médicinales aromatiques. Je crois que je suis inscrit comme cueilleur de plantes et de champignons. Et il y a aussi une activité de vannerie. Et on va se faire un petit tour. Il y a un hangar, la maison dans le hangar, un petit local ici avec le séchoir. Et ça, c'est une prairie d'un peu moins d'un hectare. En tout, il y a 3 hectares autour de la ferme là. Voilà, sur une butte et assez loin des autres cultures conventionnelles. Ouais. Voilà, donc là, tu as les hangars ici, tu as le séchoir à plantes ici. Donc ça, c'est un séchoir, c'est une centrale à air sec. C'est un séchoir, tu vois, il y a un gros moteur qui est un peu l'équivalent d'un frigo inversé. Donc, il va balancer de l'air sec dans une armoire où il y a 4 claies. Et l'air sec, donc on chauffe à une température qui est à 37 degrés. Et l'air sec est balancé par le bas, ici, de l'armoire, traverse toutes les plantes ici, ressort chargé d'humidité. Ça se condense sur cet élément là du séchoir qui est l'équivalent, ça ressemble un peu à un radiateur de bagnole. Et l'air sec repart dans le séchoir et ainsi de suite. Et on est là en milieu un petit peu fermé. Et ça permet d'avoir un séchage vraiment optimal. 37 degrés, c'est un petit peu les... J'ai entendu une herboriste un jour qui disait que c'est les échanges chimiques qu'on a dans notre corps. Et les plantes sont séchées à cette température là. Ce qui permet de les sécher assez rapidement quand même. Et surtout de pas la cuire, quoi, et de respecter un séchage qui va respecter et la couleur et les principes actifs qu'on attend dans les plantes. C'est une super machine, surtout pour surtout le fait d'être en Bretagne, ça compte vachement d'avoir cette machine-là. Moi, je vends de la plante en vrac, donc en grosse quantité. Et c'est très important d'avoir ça. Si je cueille de la menthe, de la mélisse, de la camomille et que j'ai 4 jours de crachin dans la foulée, je vais jeter une bonne partie de ma cueillette, quoi. Que ça permet, mais c'est vraiment le fait d'être en Bretagne, ça justifie vachement ça. On est sur un séchage vraiment vraiment respectueux, quoi, et ça fait de la très belle qualité de plante ensuite.
Et comment tu es arrivé à cette activité?
J'ai rencontré mon amie, qui est la maman de mon fils, qui venait juste de s'installer en production de plantes aromatiques et médicinales dans un collectif qui s'appelait Flore d'Arrée. Et moi, j'ai commencé à cueillir un petit peu pour elle, en cueillette sauvage surtout. Et c'est elle qui m'a un peu initié en fait à la cueillette sauvage, et aussi avec le temps aux travaux au champ. C'est elle qui m'a expliqué comment marchait le tracteur, etc. etc. Et ensuite, on s'est mis tous les deux sur l'activité. J'étais pas trop au champ au début, j'étais vraiment en cueillette sauvage. Et je me suis mis plus au champ, et puis ça a commencé à me passionner aussi, les travaux du champ, et les mises en place, et tout ça. Et donc c'est parti de là, quoi.
Parce qu'avant, tu faisais quoi?
Avant, j'étais menuisier. Et encore avant ça, j'étais guide nature, et encore avant ça, cuisinier, et des petits trucs à droite à gauche aussi, comme ça.
Et originaire de ce territoire ou...
Et alors, j'ai grandi une dizaine d'années dans le Finistère petit, de mes 0 à 10 ans. Ensuite, ça a été une dizaine d'années, enfin un peu moins 7-8 ans, juste limite Loire-Atlantique Vendée, sachant que je me considère vraiment de la Bervrac. J'ai habité toujours très près de la Bervrac. Ça a toujours été le lieu de vacances enfant. Et ensuite, jeune adulte, et j'ai habité ensuite 17 ans sur la Bervrac. Et ça fait maintenant presque 10 ans que je suis dans les Monts d'Arrée, ici, à Pleunermenez. Mais toujours un lien avec la Bervrac, parce que quand on est un petit gars de la côte, on a besoin de la mer. Et puis, il faut retourner se ressourcer là-bas. Donc voilà, et ça fait une dizaine d'années que je suis dans les Monts d'Arrée, par contre, que je connais bien, parce que quand j'avais 20 ans, je traînais déjà par là, parce que j'étais très attiré déjà par ce cadre, ce paysage, et puis ce petit côté un petit peu hors du temps, quoi, par rapport à... Puis c'est une partie de la Bretagne que pas mal de gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent la Bretagne avec le vieux Péchou, son ciré, sa casquette, et que les Monts d'Arrée, ça reste le centre Bretagne en général, la Montagne Noire aussi, tout ça, mais ça reste un pays moins connu quand on parle de la Bretagne et qui est très très fort pour moi. Il y a quelque chose de très fort et puis de très nature aussi, quoi. Des cueillettes se terminent fin août à peu près. Donc là, t'as un rang de sarriette, ça qui reste toute l'année. Un rang de sauge que je vais sûrement dégager cet hiver et qui va se transformer en... Je vais planter une ligne de rosier ici. Là, il y a de la mélisse qui est installée depuis peu, là, depuis le début de l'année, qui va rester en place au moins 4-5 ans, si c'est plus. Donc là, c'est un rang de rosier que j'ai installé l'année dernière. La camomille, là-bas, camomille romaine. Donc ça, c'est fini. Là, je laisse les fleurs encore un peu, mais les cueillettes sont finies. Et après, tu as du bleuet, souvent, du calendula, du chrysanthème asiatique, de la pensée sauvage. Voilà, en gros. Hein. On parle souvent du champ du haut et du champ du bas. Et ça, c'est la prairie... principal, on va dire, où tu vois là il y a les rosiers, où ça c'est des cueillettes de fin mai à fin juin, de la rose de Provins, des framboisiers ici, ça c'est pour un peu les fruits pour nous, mais surtout les feuilles aussi pour les tisanes. Parce que la principale activité c'est vraiment cueillir des plantes, les sécher pour la plante sèche, pour les tisaniers. Et puis aussi de la plante fraîche pour donc la plante sèche c'est surtout pour fleurs d'arrêt et un petit peu une fromagerie, une ou deux herboristeries et la plante fraîche c'est pour plante arrêt qui est un labo qui s'est installé il y a 4-5 ans à Pleunermenez et qui fait des teintures mères, des huiles de macération, de la gémothérapie. Et du coup, j'ai ces deux activités, ou une en plante sèche, ou l'autre en plante fraîche, ou dès que les cueillettes sont faites de plantes fraîches, dans le quart d'heure, je suis au labo, et ils peuvent s'occuper des plantes immédiatement, quoi. Ça fait une grosse activité de mars à mi-septembre, à peu près, où en fait, tu travailles du matin au soir. Enfin, c'est dur, j'aime pas utiliser ce mot-là, tu travailles, mais tu es occupé du matin au soir. C'est au mois de juin, il fait jour à 5h30, tu te lèves à cette heure-là. Déjà parce que je crois qu'on a une espèce d'horloge où je pourrais jamais dormir au printemps et l'été tardivement. Je me réveille automatiquement, j'ai pas de réveil, quoi. Et ensuite, c'est la nuit qui me pousse à la maison. On est tout le temps dehors, tant qu'on peut, quoi. Après, il faut voir avec la météo. De mars à mi-septembre, t'es contraint, entre guillemets, parce que il n'y a pas de plainte, et puis c'est évidemment surtout du plaisir, mais t'es quand même contraint avec la météo et les différentes floraisons ou débourrages de feuilles. Tu regardes la météo 2, 3, 4 fois par jour. Ton programme le soir, quand il y a des stagiaires, ils rigolaient à la fin. Où je parle d'un programme un soir et puis ils savent très bien que le lendemain matin, si la météo a changé, tout le programme de la journée change. Donc on s'adapte, il faut être vraiment réactif. S'il y a une petite pluie qui est annoncée à 11h du matin, on va cueillir très très tôt pour, si possible, ne pas cueillir mouillé pour pouvoir mettre les plantes au séchoir ensuite. De mars à mi-septembre, tu es dans l'urgence, quoi, tout le temps. Tu as une liste de choses à faire dans la journée. Tu sais que tu ne pourras pas faire tout.
et tu fais vraiment ce qui est ce qui compte le plus là pour le moment. Quand tu commences ta journée, tu vas pas au travail. C'est vraiment quelque chose, en tant que paysan, tu as une notion de... Même si je suis pas productif tout le temps d'ailleurs, parce que le soir, ça peut être divaguer entre les planches et être contemplatif, mais il compte ce moment-là. Ça fait partie de ce moment où tu essayes de comprendre au début qui c'est qui bouffe tes pétales de calendula, ou c'est la sauterelle verte qui est en train de manger le cœur du... Et c'est juste... c'est pas forcément pour avoir une réponse d'ailleurs, parce qu'on est... On est tous là, moi, la sauterelle et les papillons, dans le même cadre. Mais c'est pour être intime avec le lieu et comprendre ce qui se vit ici. Et donc voilà, donc en fait, t'es tout le temps autour de l'activité. Moi, je sais que j'arrête de lire des romans, de la fiction, tout ça. J'arrête de lire à partir du mois de mars. Et je recommence à l'automne. J'ai une pile de livres que des amis me filent au fur et à mesure de la saison. Et je recommence à bouquiner à partir du mois d'octobre parce que j'ai un petit peu plus de temps. Mais avant ça, c'est vraiment... c'est très chronophage, tout ça. Mais encore une fois, c'est pas une plainte. Hein. C'est juste que ça fait partie du... Ça fait partie du métier de... d'être tout le temps... C'est maintenant que ça se passe, de mars à octobre, quoi. Malgré le fait d'avoir amendé un petit peu avec du fumier, des algues, c'est une terre qui sera sûrement bonne dans quelques milliers d'années et qui aura beaucoup d'humus et tout ça. Mais en attendant, c'est une prairie pauvre. J'arrive quand même à vivre ici et puis à produire. Mais c'est l'intérêt ici aussi, c'est qu'on est dans une zone très très propre. On est sur une butte, on est à 260 mètres et il y a très très peu de culture autour, de culture conventionnelle, j'entends. Et voilà, donc là il y a cette petite prairie là. Là on est sur à cultiver, ça fait à peu près 900 mètres carrés. Donc ça c'est le champ du haut. On va aller après dans la prairie, dans le champ du bas. Et sachant que sur le volume de plantes, la cueillette sauvage représente à peu près les deux tiers de mon volume de plantes. Ce qui fait que ça peut paraître être un petit jardin, même si pour moi c'est énorme quand tu vois la tonne de désherbage qu'il y a à faire et tout ça. Je trouve que c'est assez grand comme ça. Les deux tiers du volume de plantes, là je suis à peu près sur 130 kg ou 135 kg sec de plantes. Ça représente... en gros, hein, 600 kg de plantes fraîches. Donc là, on parle vraiment de petites feuilles et petites fleurs. Et toute la partie en cueillette sauvage, le jardin, il s'entretient. La nature est généreuse et opulente, quelle que soit la météo d'ailleurs. C'est rare. On peut avoir des problèmes au champ de culture suivant des saisons, des excès d'eau ou des problèmes de sécheresse, comme quand on avait eu les feux dans les monts d'Arrée, là, de canicule et sécheresse. Mais quand même, en cueillette sauvage, tu peux avoir des petits décalages dans le temps, de quelques jours, voire de 2-3 semaines, mais ça reste généreux et opulent dans l'ensemble. Et c'est confortable parce que t'as pas d'entretien, quoi. Tu arrives là et puis tu prélèves ce qu'il faut, et voilà. Je crois que le frêne, c'est un arbre qui me touche beaucoup. Je me sens proche aussi le frêne, et puis les menthes aussi. J'adore les cueillettes de roses. Souvent, c'est très très tôt le matin, sauf cette année. Cette année, c'était vraiment l'année la plus bizarre, moi, que j'ai vue en 10 ans, avec du jamais vu, des choses jamais observées. Normalement, je suis sur presque 7 kilos de pétales de rose pour le mois de juin. Et là, cette année, j'ai à peine fait 3,5 kilos ou 4 kilos, quoi. En fait, ça a fleuri tout l'été, mais de manière sporadique, comme ça, ça faisait 15, 20, 40 roses. Donc, bon, moi, la saison était pliée au niveau de la rose, et puis je m'occupe plus de ça, je suis passé à autre chose. On voit toujours une fleur de sureau en septembre ou un rosier qui va refaire. Mais pour la rose de Provins, normalement, fin juin, ça s'arrête et basta, c'est terminé. Et là, j'ai vu les roses fleurir tout l'été. Et ça, c'est une des bizarreries qu'il y a eu cet été. Ce que j'ai un petit tracteur, j'ai un vieux truc des années 50, là, un vieux Renault, que j'utilise un petit peu, surtout au printemps pour un peu travailler la terre, et ensuite à l'automne. Et là, j'ai passé le tracteur. Là, tu vois, il y avait du calendula, du bleuet, des choses comme ça. Donc là, j'ai couché tout ça et j'enfouis ça dans le sol. Et bientôt, là, dans le mois de septembre, je vais attendre une fenêtre météo qui ira bien. Je vais semer un engrais vert sur ces planches-là, qui peut être de l'avoine, de la moutarde, du seigle ou de la facélie. Et ça, ce sera semé pour avoir un couvert sur ces bandes pendant l'hiver, pour ne pas laisser le sol à nu. Et cette plante-là qui va servir d'engrais vert sera enfouie, sera fauchée à la fin du mois de février à peu près, ou courant mars, et sera enfouie dans le sol et participera un petit peu à la vie du sol. Voilà. On va faire un petit tour dans le champ du bas.
Ouais.
Ouais. Et ce champ-là fait un hectare à peu près. Bon, il y a plusieurs fruitiers que j'ai mis en place il y a quelques années. J'ai encore des cassis, il y a beaucoup de plantes cassis, parce que c'est une feuille qui est beaucoup utilisée en infusion. Je fais mes patates ici, j'ai encore une bande de romarin, il y a de la guimauve. Et surtout, depuis quelques années, j'ai réinstallé pas mal d'osiers. Parce que j'avais commencé la vannerie en 2010. J'ai appris en commençant un petit stage de 2 jours. Et ensuite, j'ai rencontré pas mal d'anciens, dont un ancien, Jean Perron à Goulevin, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, autant à tresser que à tailler l'osier avec lui dans l'oseraie. Et du coup, j'ai appris à faire des paniers avec les anciens, quoi. J'ai pas été me former ni à Villaines-les-Rochers, ni dans des lieux comme ça. Et j'ai eu un petit atelier de vannerie sur le port à la Bervrac pas longtemps, presque 2 saisons. Et j'ai vraiment arrêté pendant presque 4-5 ans, quoi. Et j'ai recommencé là depuis 2 ans à tresser, et puis je fais l'hiver de octobre à avril. Je fais un stage de 2 jours par mois, et il y a 5 personnes qui viennent pendant 2 jours, et l'idée c'est vraiment d'apprendre, c'est vraiment des stages pour débutants, c'est d'apprendre à faire un petit panier rond en reprenant toutes les étapes du panier jusqu'à l'anse. Et du coup, ben, j'ai replanté pas mal d'osiers. Donc là, tu vois, on va passer là-bas où il y a ça, c'est de l'osier que j'ai planté il y a 2 ans. Donc il y a différentes variétés d'osier. Et ça, tu vois, celle-ci a été plantée il y a 2 ans. Donc ça, c'est de la sardine. Donc tu vois, il y a quelque chose d'assez chouette dans la culture d'osier par rapport au à la culture des plantes, c'est que en général tu mets 100 bâtons en terre, tu en as 98 qui partent, quoi. Ça demande pas, alors à mon avis il y a un peu une idée reçue de prairie vraiment humide où l'osier a pas besoin d'une prairie très très humide. Le saule, c'est le l'osier, c'est des variétés, c'est un salix, donc c'est vraiment du saule. Le saule sauvage peut vraiment pousser les pieds dans l'eau. Nous, ce qu'on a besoin pour la vannerie, c'est pas des grosses tiges de 3 mètres de long avec un pied énorme, c'est des brins très fins, tu vois. Donc là, on est sur, on va dire, un peu plus d'un centimètre au départ, et puis ça peut te faire un brin très fin qui monte à plus de 2 mètres. Et pour de la vannerie fine, on va dire, c'est un peu ce genre de profil qu'on recherche, quoi. Ça, c'est une variété spéciale, c'est de la grisette, et tu peux voir que le chevreuil s'éclate là-dessus. Donc je vais clôturer cet hiver. Il touche à rien d'autre, il y a du purpurea, de la sardine, de l'alba, d'autres variétés. Et normalement, tu vois, la grisette, c'est pas une variété courte, quoi. Elle pourrait être bien plus haute que ça. En gros, c'est un bâton de 40 cm qui a été planté évidemment les yeux vers le haut, et qu'on a enfoncé de à peu près 10, 15, 20 cm en terre. Et tu laisses cette partie-là sortir avec entre 3 à 5 bourgeons. Donc la première année, bah, il va te faire 3 brins ou 4. Et la deuxième année, en fait, quand tu vas rabattre ici, de là va repartir de brins, de là aussi va repartir de brins. Et puis à la fin, ça va ressembler à une espèce de trogne, à une boule, tu vois, comme ça, où il va y avoir, je ne sais même pas combien, mais 20 ou 30 brins sur chaque plan, quoi. Donc ça, c'est rabattu tous les hivers. Là, on sent que il est en train de... Bah, il arrive à l'automne, hein, donc les feuilles vont commencer à tomber tout doucement. Au mois de décembre, il n'y aura plus du tout de feuilles dessus. Et c'est ce moment-là qu'on choisit pour le tailler. La sève est bien redescendue aussi. Et là, on le taille, on le met en botte pas trop serrée. On peut le laisser ressuyer un peu sous la pluie. Ça, il y a plein de points de vue, il y a plein d'écoles et plein de manières de faire. On essaye de le mettre dans un endroit quand même ventilé pour pas qu'il soit bottelé serré aussi et puis qu'il champignonne un petit peu, qu'il puisse sécher de manière uniforme. Et ensuite, on le trie par hauteur. Donc, on met ça dans un bac et puis on commence à prendre vraiment avec un petit marchepied les brins les plus hauts et puis on fait des bottes à peu près qui sont toutes les 20 ou 30 cm à peu près, quoi. Et donc ça, c'est une activité l'hiver, ce qui me permet d'avoir plus de temps là-dessus parce que au niveau des plantes aromatiques et médicinales, c'est fait, quoi. Après, c'est plus de l'entretien, des petits outils, de rebouturer du cassis, dès janvier, repréparer des petites boutures de camomille et tout ça. Mais ça me laisse quand même vachement plus de temps pour m'occuper de l'osier, du coup, l'hiver. Et l'idée, c'est d'avoir suffisamment d'osier pour alimenter les stages de vannerie et éventuellement à vendre aussi de l'osier à l'avenir, quoi. Parce que je pense que là, on est à un moment où il y a pas mal d'anciens qui s'en vont, qui décèdent et qui cultivaient énormément. Et on est à ce moment de rencontre aussi. Visiblement, ce qui se dit depuis le Covid, c'est qu'il y a énormément d'intérêt pour cette activité-là. Je crois qu'il y a beaucoup pour les activités manuelles en général, mais pour l'osier, pour la vannerie. Et on est pile au moment où il y a beaucoup moins d'anciens qui cultivent, et puis aussi avec un intérêt fort de plein de gens vers ça. Et on sent que en Bretagne, notamment, les gens ont du mal à trouver de l'osier, quoi. Ouais. Et ça peut du coup venir de, je sais pas d'où, de Dordogne, de Bourgogne, d'Anjou et tout ça. Quand je me suis mis à la vannerie, c'est que ça faisait déjà une ou deux saisons que je faisais de la cueillette sauvage. Et très vite, je me suis dit que c'est vraiment l'intérêt pour lequel j'ai commencé. Très vite, je me suis dit qu'il faut des contenants différents suivant si tu vas cueillir de la reine des prés, où là, c'est mieux d'avoir un petit seau dans lequel tu mets la reine des prés que tu bascules dans une hotte derrière, parce qu'en plus, là, tu te déplaces beaucoup dans la prairie. Ou alors, les cueillettes au champ, où il faut des gros paniers pour l'origan ou des choses comme ça, parce que là, on est sur des gros volumes. Ou quand je vais à l'ortie, où là, l'ortie, c'est vraiment, je cueille vraiment les pointes d'ortie. Et là, ça peut être plus de 30 kg de pointes d'ortie, donc ça fait des contenants énormes. Donc dans ce cas-là, j'ai des grosses panières. Et ça a vraiment été ça. Il y avait un intérêt de se tourner vers quelque chose de naturel, le tressage et tout ça. Mais c'était aussi de manière très pratique pouvoir faire moi-même mes paniers. Parce que normalement, de faire ses paniers, le panier, il peut rester 30 ans s'il n'est pas oublié dehors sous la flotte, et que c'est une alternance de mouillé séchage, que ce soit des petits paniers de pêche, comme j'ai vu des anciens à la Bervrac, qui ont leur panier pendant 30 ans. Mmh. Et au mieux, on refait le pied et puis lance, et puis ça repart, ça repart pour un moment. Donc, c'était intéressant de pouvoir être autonome et de savoir faire ses paniers, quoi. Ça a été vraiment l'intérêt au début de, d'aller faire un stage et d'apprendre à faire ça. Et après, j'en ai fait... Bon, le premier hiver, j'ai fait que des paniers complètement psychédéliques que j'offrais à mes copains et copines. Voilà, parce que je découvrais et puis c'était pas du tout esthétique, c'était très pratique. Mais c'était tatin, tu vois, cadeau. Mais alors, je sentais bien, waouh, dis donc, c'est quoi ce panier? Ben voilà, c'est, j'apprends aussi... J'ai eu toute une période, un hiver, où j'ai appris avec des supports comme certains bouquins. Et t'as vraiment des bouquins où ils ont oublié 2-3 photos, où tu galères tout seul à la maison. Et c'était vraiment important de se tourner vers les anciens et puis d'être assis. Mmh. Et c'est comme pour les champignons, si t'apprends pas les champignons avec les livres, quoi. C'est bien d'apprendre humainement et que le livre devient un support ensuite. Mais voilà. Donc tu vois, de l'osier, je vais en planter. Là, il doit y avoir... dans le chiffre, ça paraît beaucoup, hein, mais il doit y avoir presque 2800 pieds, là. Et je vais en remettre toute cette zone là, je vais en remettre beaucoup cet hiver. Toute cette partie là, ça va être de l'osier. Et donc ça va commencer réellement à donner au bout de 3 ans, on commence à vraiment être sur une récolte conséquente.
C'était Au détour d'une rencontre, réalisé par Alexia Guignard.
Je viens manger, dormir, siffler matin, rater, partir. Je viens, je danse aux choses en vain, mais m'avance. J'y vais, j'en viens, manger, dormir, siffler matin, rater, partir. Ma route la même, je n'ai pas le temps. Ma route est la même.